Tout de suite, c'est le nouveau rendez-vous et ça commence en régie avec Malik Djoudi, notre invité live, et Marion Guilbeault qui vérifie une dernière fois les balances, Marion.
Bah oui, je suis avec Malik Djoudi puis une bonne partie du personnel féminin de France Inter, je sais pas pourquoi. D'un seul coup, il y a plein de filles en régie, c'est bizarre. On écoute un tout petit bout des balances.
Ah, normalement, il y a le DX, mon gars. Et pas clapé. Ok, j'ai mal branché la guitare, moi, excusez-moi.
Malik, ça vous arrive souvent de pas câbler le DX et pas câbler la guitare ?
Oh là, vous savez, c'est que c'est pas moi qui ai la câble normalement.
Ah c'est ouais, qui a le câble ? C'est Greg ? Vous balancez ?
Oui, on balance. Non, c'est pas Greg non plus, ce sont les techniciens du plateau. Parfois,
ah
ça
ouais,
m'a.
Carrément, ah vous ouais. Accusez nos techniciens.
Vous accusez France Inter.
Non.
C'est bien
ah
parti.
Non, pas du tout, pas du tout. C'est que même parfois, ça m'arrive de câbler l'alimentation dans les jacks, de n'importe quoi.
Bon allez, on va écouter, mais je suis sûr que ça va pas être n'importe quoi. On y va, on vous rejoint, Laurent.
Christophe Bourseiller, vous avez trouvé un portable, c'est
oui,
ça ?
Oui, j'ai trouvé portable blanc. Portable blanc cherche son propriétaire.
Et ben voilà.
Adressez-vous au studio 621, merci.
Générique.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous ?
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau ?
Nouveau.
Ce soir.
Alors Virginie Rosier, qu'on oublie son portable dans le studio, ça veut dire que vous vouliez y rester. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Énervé, le magazine qui fait coup double tous les soirs. Oui, le premier rendez-vous, c'est à 18h sur franceinter.fr et en podcast, comme une avant-première. Et puis une version plus classique, à l'antenne, comme tout le monde, 22h minuit. Ce soir, une émission qui a du tempérament. C'est facile, c'est le titre entré en playlist sur France Inter de Malik Djoudi, notre invité live ce soir. Tempérament, c'est aussi le titre de ce deuxième album, Marion Guilbeault.
Il va être là pour trois titres avec une reprise qui va faire perdre quelques degrés à la version originale. La version originale, c'était la Tory de Beyoncé qui l'a signée.
Oui, quand même. De l'algorithme aussi ?
De l'algorithme, un algo qui va chercher plutôt dans les touches noires du piano, c'est celui de Malik Djoudi.
Il est installé à son micro, à nos côtés, Jairo Bustamante pour son deuxième film Tremblement. Le premier avait reçu l'Ours d'Argent au Festival de Berlin il y a 4 ans. Aujourd'hui, direction le Guatemala, stupeur et tremblement dans une famille bourgeoise. Pablo, 40 ans, respecté, marié, 2 enfants, crée le scandale. Il est amoureux, homosexuel. La société ne le lui pardonnera pas et le pays subit des tremblements de terre. Ça fait beaucoup. Jairo Bustamante, bonsoir.
Bonsoir.
Dans le Énervé la suite, en cette veille de 1er mai, avec ses défilés de syndicats et de gilets jaunes.
Eh bien, et de casseurs.
Et de casseurs. Bah, peut-être, regardez.
Bah, il paraît qu'ils vont venir.
Ah bon, d'accord.
Oui, oui.
Alors on rouvre les dossiers qui fâchent, ceux d'Emmanuel Macron ce soir. Christophe Bourseiller.
Écoutez Laurent, ce sont des dossiers particulièrement croustillants. Donc, j'essaie de vendre un peu. Vous comprenez ? Donc ce sont vraiment des dossiers tout à fait surprenants. Et alors pour en parler, il y aura vous, il y aura moi bien sûr. Il y aura Alexandre Devecchio du Figaro, Romain Goupil qui est cinéaste, Fagelès, qui est député LREM de Paris, et puis le journaliste Marc Andevel qui signe un livre, alors tout à fait croustillant également, qui s'appelle Le Grand Manipulateur, les réseaux secrets de Macron. Voilà.
Eh bien, c'est parfait, on se retrouve tout à l'heure. Alors.
J'espère. Oui,
allez,
à tout à l'heure.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et on commence tout de suite dans le fond du studio 621, mais on les voit, on les verra même, j'imagine, en vidéo, Marion Guilbeault.
C'est prévu, c'est un petit nouveau de 37 ans qui a déboulé il y a seulement 2 ans sur l'échiquier hexagonal français, déjà bien bien chargé. Mais voilà, les chansons de Malik Djoudi, elles ont un charme fou et bien évidemment, elles ont du tempérament. Alors lui, il a vraiment su développer un son, celui d'une pop contemporaine avec des climats changeants. Cette pop, elle est animée par des pulsations électroniques et par une voix androgyne qui nous fait penser parfois que Christophe n'est pas loin. Et pourtant, c'est avec Étienne Dao qu'on le retrouve en duo sur son album. C'est assez rare quand même pour être souligné. La page blanche, les nuits blanches, Malik Djoudi, ce perfectionniste obsessionnel, les a mûrement éprouvées pour les colorer à sa guise. Pop rouge, mots bleus, on va parler racines, on va parler couleurs, mais pas coiffure, non, je vous rassure. Musique, catharsis avec lui.
On peut
mais
parler coiffure, aussi, moi ça ne me dérange pas.
Mais voilà, là on l'écoute dans un premier titre en live dans le Énervé. Malik Djoudi, c'est à vous.
Bonsoir.
Chlésine en bleu jean, j'aime la vie, j'aime les gens, tant que mon tempérament seul désiste des eaux troubles entêtantes tant que mon tempérament j'hésite, je cherche mes billes. Certains jours, je perds mon temps. Quand mon tempérament seul résiste aux autres.
Tempérament, ouais, Malik Djibi, c'est le titre qui ouvre ce nouvel album, Tempérament, avec un S cette fois-ci. Quand il s'agit de l'album, il est accompagné par Greg Cadou qui assure la basse et les claviers. Venez nous rejoindre, Malik Djibi.
Qu'est-ce qui s'est passé avec la guitare alors ?
Elle était mal câblée, là, elle était mal semblée. Il y a un truc quand même.
La guitare est tombée en plein milieu de la
oui.
chanson. Ouais.
Ah, c'est les aléas.
Ouais, c'est les aléas.
Les aléas du presque direct.
Voilà, c'est les aléas du presque direct. Spectacle vivant.
Il y a un truc aussi que vous faites. Que j'ai remarqué, je vous avais déjà vu sur scène, mais là je l'ai remarqué encore, c'est ce petit pas de danse que vous faites quand vous chantez.
Alors je ne sais pas d'où ça vient, de qui me. Non, personne ne me l'a appris, mais c'est assez naturel.
C'est instinctif. Ouais, j'aime bien, c'est petit truc comme ça.
Oui, c'est mon tempérament.
C'est comme un espèce de piétinement, mais qui monte, on sent que ça monte.
Surtout que vous avez travaillé en plus avec des chorégraphes, notamment avec quelqu'un que je connais bien, Pierre Rigal.
Exactement, oui, de Toulouse. Alors on a fait plusieurs spectacles ensemble, dont un qui a pas mal tourné dans le monde pendant 7 ans et qui m'a appris beaucoup de choses pour la scène, pour être un peu en frontman sur la scène.
Parce que vous aviez du mal au départ à être frontman sur la scène ?
Pas du mal, mais c'est quelque chose quand même qui parfois est assez... ça fait peur quoi, d'être devant et ça m'a permis vraiment d'avoir un peu confiance en moi.
Alors je vous présente Jairo Bustamante.
Enchanté.
Il est comme vous, hein. Lui c'est son deuxième film, vous c'est votre deuxième album.
Deuxième album,
on dit toujours qu'il y a la pression, qu'il y a des attentes suite au succès du premier, parce que le premier quand même a connu un bon succès critique, il avait été playlist aussi sur Inter. Oui, la pression, c'est vrai ?
Il y a une pression qui est, on vous dit que ce deuxième album est difficile à faire, mais je suis resté chez moi dans les mêmes conditions que faire le premier. Et sans trop penser à ça, cette pression du deuxième album, et surtout comme vous l'avez dit, je m'attendais pas à l'accueil du premier album comme ça. Ça m'a vraiment poussé à continuer.
Vous avez accéléré même le tempo. Moi, je trouve, j'ai mis du temps avec un premier album à exister, et là tout de suite un deuxième qui est arrivé. Moi, je trouve plutôt assez vite, et avec pareil une qualité qui. C'est dans Libé que j'ai lu. Vous êtes passé de la mono à la stéréo.
Mais c'est bien.
C'est chouette.
C'est bien. Même chose pour vous, peut-être Jairo Bustamante. Le premier, vous êtes arrivé pas vers véritablement tard sur le cinéma, parce qu'il y avait eu des courts-métrages, des moyens-métrages. Mais premier film, véritablement, vous avez l'Ours d'Argent à Berlin, primé dans 30 festivals. Pour le deuxième film qui sort demain, il y a une pression ou pas ? On vous attend au tournant ? Qu'est-ce qui se passe ? D'abord, c'est plus facile à financer, j'imagine ?
C'était un peu plus facile à financer, surtout parce que le premier était presque autofinancé. Mais je crois que la pression, on l'a vécu là, pour le coup, différemment. C'était plutôt une pression que moi et mon équipe avons pris comme un challenge pour nous démontrer à nous-mêmes qu'on avait mûri dans le dialogue du cinéma, qu'on pouvait maîtriser une histoire un peu plus complexe, qu'on pouvait raconter des personnages qui avaient une gamme de gris beaucoup plus large. Et aussi que moi, personnellement, j'avais très envie de travailler avec un groupe plus choral de comédiens.
Mais là, ils sont très nombreux. C'est une famille au sein de la société guatémaltèque. On va y revenir dans quelques instants. Peut-être un mot sur cette voix, Malik Djibi, qui est quand même votre signature. Cette voix, vous la découvrez à quel âge ? Et quand vous avez, parce qu'il y a une vie avant ces deux albums, vous aviez déjà cette voix-là quand vous chantiez pour d'autres groupes ?
J'avais expérimenté, mais pas autant. Mais cette voix, elle est arrivée sur les chemins de campagne de mon village, dans le Poitou-Charentes, avec ma maman. Qui ont chanté Carmen à l'âge de 6 ans. Et par la suite, après, j'ai composé pour une chanteuse rock avec qui j'ai voulu faire des morceaux. Et j'ai tout de suite pris sa tessiture. Elle a chanté faire des voix hautes, pour un exemple. Et cette chanteuse rock est partie habiter en Angleterre. Et j'ai décidé de garder ses morceaux. Et aujourd'hui, cette voix, quand je compose au clavier, à la guitare, elle arrive naturellement. Je ne me pose pas la question à me dire « Ah tiens, je vais chanter ça en haut ou en bas ». C'est quelque chose encore d'instinctif, comme les pas de danse.
Mais vous avez pris des cours de chant, il paraît, en plus avec un prof quand même pas tout à fait commun. C'était le leader de Magma, Klaus Baski.
Oui, c'est ça.
Vous connaissiez Magma, vous connaissiez son travail avant de prendre des cours de chant avec lui ?
Non, du tout, c'était à l'école Atla, à Paris. J'ai trouvé ce cours avec Klaus Baski, ce que je ne connaissais pas, et par la suite, lui m'a fait découvrir tout Magma.
Mais vous n'êtes pas mis à chanter en cobayen pour autant ?
Non.
En quoi ?
En cobayen.
En cobayen, la langue de
c'était
Magma.
C'était la langue qu'avait inventé Magma à l'époque pour chanter. Ouais. C'est une langue, un langage.
Et cette personne m'a beaucoup poussé à en faire mon métier, à faire la musique
Et pourquoi vous aviez décidé de prendre des cours de chant, si vous chantiez déjà avec votre maman et avec cette chanteuse avant? Qu'est-ce qui coinçait? Qu'est-ce qu'il fallait décoincer peut-être?
Je sais pas, c'est peut-être... on dit tout le temps ça, faut prendre des cours, alors moi je prends des cours.
Vous êtes obéissant.
Oui, voilà, on va prendre des cours.
On va parler cinéma dans quelques instants, bien sûr, avec le deuxième film de Jairo Bustamante, mais... pour l'instant, on vous a demandé à chacun des sons pour faire plus amplement connaissance. Et ça commence par un son qui est en lien direct avec votre film, Jairo Bustamante. Un son de tremblement de terre. Pour quelle raison avoir choisi ce son? En quoi il vous concerne personnellement?
C'est un son dont je suis très habitué, c'est le son de tremblement de terre qui normalement arrive la nuit. Et qui vous oblige à dormir à demi-éveillé pour sortir en courant. Et d'ailleurs, après, on a appris que sortir, c'était pas la meilleure des choses.
Ah, il faut rester chez soi quand il y a un tremblement de terre? Descendre à la cave, dépend.
Il faut chercher un loin qui puisse faire un triangle protecteur.
Ouais.
Mais vous savez, chez moi, les câbles électriques sont exposés. Et donc, ça tombe. Et pas tout, il se déclenche pas tout de suite, donc parfois c'est beaucoup plus difficile de sortir. Il y a les parents parfois, on sortait, on nous mettait dans les voitures, si jamais il y avait un câble, on était protégé par les pneus. Et il y a toute cette sorte d'impression et surtout d'activité qu'un tremblement de terre invite. La peur qui reste après, une fois que ça a tremblé, on sait que ça va revenir en petite secousse, c'est que ça peut être encore plus fort. Et donc, je trouvais que c'était très approprié pour l'histoire que je voulais raconter.
Et surtout un homme qui voit sa vie complètement trembler suite à la révélation de son homosexualité.
Oui, je voulais tisser un peu avec le mot tremblement, parce que c'est aussi le tremblement de sa chair, c'est aussi un tremblement qui fait qu'il ne puisse plus continuer à mentir. C'est un tremblement social, c'est un tremblement religieux, c'est le fondement d'une façade.
Ouais, c'est une déflagration, on va en parler avec vous. Un son musical pour Malik Djoudi. Comme c'est beau. Qu'est-ce que c'est?
C'est une scie musicale.
Ouais. Vous en avez joué? C'est quoi ce son pour vous?
J'ai vu cet instrument il y a longtemps et ça m'a vraiment très interpellé parce que j'ai trouvé que ça se rapprochait aussi d'une voix humaine, ça pouvait être une voix humaine. J'ai essayé, je n'y suis pas arrivé. Et je trouve ça très ovniesque, très relaxant, très poétique.
Vous avez pu en intégrer dans le disque?
Non, mais...
Vous avez cherché?
Non, pas pour le moment, mais...
Ça pourrait être une piste.
Si on m'entend.
Oui, parce qu'il n'y a pas beaucoup quelques éléments organiques sur le disque, mais c'est plutôt des sons synthétiques.
Oui.
Il y a le son de la guitare qui reste organique.
Oui, il y a des sons de cuivre aussi.
Ouais.
Mais non, c'est la scie musicale, c'est quelque chose que je n'arrive pas vraiment à percevoir et je trouve ça très beau.
Encore de la musique pour Jairo Bustamante. Un commentaire, Jairo?
Oui, là, je suis étonné de la retrouver dans une fête.
Ouais.
La chirimia, qui est une espèce de flûte maya. Et que pour moi, c'est un instrument qui pleure. C'est vraiment le reflet de toute une société qui a été opprimée pendant si longtemps, qui a, après une conquête tellement dure, elle a dû vivre autant de racisme pendant toute la pré-conquête. À tout ça s'est ajouté une suite de dictatures.
Une guerre civile
aussi,
au Guatemala.
Une guerre civile qui a terminé par un génocide. Ouais. Et aujourd'hui encore, une autre type de dictature, parce que les militaires restent là, dans le pouvoir. Il y a la corruption qui a grandi. En tout cas, il n'y a presque pas de sortie pour le peuple maya dont cet instrument représente tellement cette pleure. Pour
vous
moi.
Savez jouer de la musique?
Non. Étrangement, je danse. Je n'ai jamais compris comment on peut être dépourvu de talents musicaux et pouvoir comprendre les rythmes. Ça m'a toujours paru étrange.
Quel genre de danse?
Un peu de tout.
Du tango?
Les danses des salons, celles qu'il faut comprendre, vraiment la chorégraphie, non, mais les danses les plus... les plus organiques, on laisse un peu le temps, le corps s'abandonner, ça, je me sens plus à l'aise.
Rendez-vous.
Eh bien, on va retrouver tout de suite les petits pas de danse improvisés de Malik Djoudi.
Malik Djoudi, on lui laisse le temps de remettre sa sangle de guitare, de voir si tout fonctionne derrière nous. Je vais en profiter pour annoncer quelques dates de concert. Il va être en concert à Mélan, à Béthune, aux Trois Éléphants, à Laval le 24 mai, au Wheel of Green Festival à Vincennes le 1er juin. Ça, c'est chic. Le Sac Il Faut Festival à La Réunion. Une tournée qui reprend à l'automne et le Trianon à Paris. Ce sera le 20 novembre. Ah non, il y a toujours un petit souci de sangle. Hein.
C'est pas... Non, mais c'est prenez la sangle, elle est foutue, elle est complètement pourrie cette sangle, c'est tout, il faut la changer maintenant.
Elle était sciée.
vous croyez, on l'a sabotée. Il va falloir faire une enquête, je suis innocente, moi.
Merci.
Une autre chanson.
I've been drinking. I get filthy when that liquor get into me. I've been thinking. Why can I keep my fingers off you, baby? I want you.
now, now. Why can I keep my fingers off it, baby? I want you now, now. Cigars on ice, cigars on ice. Feeling like an animal with these guns all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me fitted, 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 baby. I want you now, now. Can't keep your eyes off my fitted daddy. I want you now, now. Drunk in love, I want you. We walk up in kitchen, sing out, how did this shit happen? Oh baby, drunk in love, we be all night. Last thing I remember is our beautiful bodies grinding up in the club. Drunk in love, we'd be all right. Love, love, we'd be all right. Love, we'd be all right. And everything all right. We'd be all right, love. Sing, I've been drinking. I get felty when that liquor get into me. I've been thinking. What can I keep my fingers off it, baby? I want you, nah, nah. What can I keep my fingers off it, baby? I want you. Na na, drunk in love, we be all right. Love, love, we be all right. Love, we be all right, and everything all right. We be all right.
Live dans le nouveau rendez-vous. À la prise de son était assurée par U2, Diego Aclopez, Florent Layani et Serge Viguier. Les vidéos sont à retrouver sur nos réseaux sociaux et sur franceinter.fr. Beyoncé.
Une reprise de Beyoncé, ouais.
Voilà, ouais. C'est votre choix.
Super bien travaillé.
Qu'est-ce qu'elle représente, cette chanson ou cet artiste, pour vous ?
Malik Judy.
Presque. Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut parler de perfection. Mais... Non, pas la perfection, mais c'est quelque chose qui... C'est hors du commun, une force de la nature qui danse merveilleusement bien, qui chante merveilleusement bien. Puis je me suis intéressé un peu à elle, qui ça peut être un guilty pleasure, comme on appelle ça.
Ouais.
C'est quelqu'un de très très ordonné, qui travaille beaucoup, qui a beaucoup d'amour pour ce qu'elle fait. Elle rigole pas et oui, c'est quelque chose que
ouais, elle prend au sérieux ce qu'elle fait.
Elle prend au sérieux ce qu'elle fait. Et pour la petite histoire, je savais que j'allais venir à cette émission et je sais que vous faites souvent des reprises et ouais. Moi j'adore faire ça. Et là, je me suis dit, je vais proposer Beyoncé. Et c'est une chanson à laquelle je pense, mais que je me serais jamais dit, tiens, je vais faire Beyoncé. Et mais c'est un challenge que je me suis fait. Et,
ouais, ça marche bien. Hein.
Merci.
Ah, ouais, c'est challenge même, très très
super
bien
impressionnant. Ouais. Deuxième album, donc Malik Judy. Vous avez 37 ans. Il y a une vie hein, avant les albums. On en parlera peut-être des jingles pour la télévision, la danse avec Pierre Rigal, etc., etc. Mais pourquoi vous avez attendu aussi longtemps avant de signer avec votre propre nom ? C'est-à-dire, qu'est-ce qui résistait ? Pour arriver tard, en fait, dans le milieu.
Parce que j'ai toujours eu des groupes de pop-rock en anglais. Et jamais je me suis dit, tiens, je vais chanter en français. Vraiment, parce que je n'aimais pas cette voix en français. Et à un moment donné, j'en avais marre d'être en groupe, de faire des concessions. On me dit faire ci, faire ça. Ouais, pour la petite histoire, j'ai perdu ma grand-mère qui était vietnamienne et j'ai décidé de partir dans son pays un peu seul, enfin seul même. J'ai traversé le pays et pour aller jusqu'à dans son village et je suis revenu avec beaucoup de confiance, enfin, envie de me découvrir et je me suis un peu retrouvé là-bas. Je suis rentré chez moi et j'ai posé des accords et les premières phrases qui sont arrivées étaient en français et là je me suis dit il y a quelque chose à faire. Et je me suis dit, je vais assumer mon nom, j'ai envie de faire, et voilà, d'être moi, d'être moi-même et de m'exprimer dans ma langue maternelle.
Mais Malik Judy, c'est pas très vietnamien.
Non.
Oui, parce que, alors, un papa poitevin, mais une maman avec des racines algériennes et vietnamiennes.
C'est ça.
Ce voyage au Vietnam, on a bien compris, ça a été un déclic. Est-ce qu'il y a eu un voyage en Algérie?
Non, j'ai eu un voyage jusqu'au Maroc, mais je compte bien le faire, celui-là, ce voyage.
Ouais.
Oui, et ma mère est algérienne de son père et vietnamienne de sa mère.
Alors, qu'est-ce qu'on écoutait chez vous comme musique?
Chez moi, on écoutait Led Zeppelin, Michael Jackson, Supertramp, Gainsbourg beaucoup, Brel, Bachung.
Et rien du côté du Vietnam ou de l'Algérie quand même, tous ces chanteurs-là, non?
Non, si, si, à Noël, il y a bien eu un disque d'un, deux, trois soleils, on a tous dansé dessus.
Ah, d'accord, oui.
Oui, pardon.
Comme dans toutes les familles en France. Qu'est-ce que... Oui, Marion?
Je voulais parler un peu de synesthésie, moi, par rapport à cet album, parce que vous aviez dit à un moment donné, cet album, la pochette est bleue, par exemple, mm-hmm. tempérament, mais j'ai lu que vous disiez qu'il était rouge, ce disque. Alors moi, je me demandais quel était votre problème avec la couleur
daltonien.
Peut-être daltonien, oui. En fait, quand on a préparé l'avant-disque, il est vrai que j'ai dit qu'il était rouge, parce que je sais pas, je voyais beaucoup de rouge, mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il est bleu. Déjà, la pochette est bleue. Et puis, le bleu, l'image bien, parce que je trouve que c'est un disque qui est parfois sombre, mais parfois joyeux. Et le bleu peut être clair ou sombre, comme revenir à la surface et revenir en profondeur, aller en profondeur. Je trouve que le bleu le caractérise bien.
Vous l'avez mixé à Londres. Ça a apporté quoi, au niveau du son?
Ça a apporté quelque chose que je ne connaissais pas. Un pays que je ne connaissais pas trop, c'est ça a apporté l'aide d'Ash Workman qui a fait Métronomie. J'étais comme un enfant et là-bas à montrer à avoir mes sons d'ordinateur et de lui donner, ça a apporté une touche anglaise, je pense, une touche anglo-saxonne que j'affectionne particulièrement parce que mes influences sont assez anglo-saxonnes. J'étais très impressionné de le faire là-bas. C'est le premier, je l'avais mixé. Ce deuxième, voilà. C'est pour ça le coup de la mono et de la stéréo, certainement.
Dont on parlait tout à l'heure avec Marion.
C'est un disque aussi où il y a deux faces. On entend ça de plus en plus souvent dans les artistes, chez les artistes qu'on reçoit dans le Nouveau Rendez-vous. On a l'impression que je pense que le retour du vinyle n'y est pas pour rien. Mais du coup, je me demandais, cette histoire de deux faces, elle est là à l'écriture, elle est là au moment de l'enregistrement. À quel moment dans votre tête ça s'inscrit que cet album va avoir deux faces?
Il s'inscrit que, moi j'ai peu de déchets. Toutes les chansons, j'ai dû faire 14 chansons, il y en a 12.
Ah ouais?
Oui. Et c'est vraiment en regardant toutes les chansons, en ayant un peu ce cadavre exquis, en les mettant côte à côte, et après j'ai trouvé qu'il était intéressant de faire deux faces. Pour moi, il y avait vraiment une face A, une face B.
Comment vous les caractérisez, la A, la B?
Je dirais encore profondeur et surface.
Profondeur et surface.
Et surface. Mais c'est ce que l'on va vérifier tout de suite avec l'algorithme de Marion Guilbeault.
Bonjour.
Bonjour.
D'avoir Marion.
Vous avez rendez-vous?
Rendez-vous.
On peut avoir de la musique?
Bien sûr.
Je vois que vous êtes recommandé par Stevie Wonder.
J'adore Tom Waits, Phil Collins, Sketchered.
Le nouveau rendez-vous.
Vous aimez Mozart?
Oui. C'est lequel?
Le dernier.
Sur France Inter.
Et oui, avant de parler cinéma avec Jairo Bustamante, on parle algorithme musical, donc tout sur la signature de Malik Judy.
Et c'est un algo qui commence avec votre premier disque acheté, Malik Judy. C'est un disque qui est sorti à peu près l'année de votre naissance. On est en 1982, c'est un disque qui a changé la face de la pop, un des disques les plus vendus au monde, un disque qui nous a tous donné envie de mettre des gants blancs et de danser le moonwalk. Bon, là, tout s'éclaircit. Les pas de danse, la voix placée haut, ça vient de lui, de Michael Jackson?
Certainement, oui. C'est que j'ai découvert ça quand, vraiment à la télé.
Ouais,
avec les clips.
Ouais, et surtout, la première image que j'ai vue, la première chose que j'ai vue de lui, c'était
quand il a chanté Ben, il devait avoir 10 ans, dans une comédie musicale. Et moi j'étais enfant, et lui était enfin, lui n'était plus enfant, mais il était enfant à ce moment-là. Et c'est à partir de ce moment-là où j'ai fait...
Il y a une identification avec
oui,
lui.
Oui, complètement. Et j'ai eu envie de... Je me suis dit, j'aimerais tellement faire mon métier. Et après, par la suite, je me suis acheté le disque de Thriller. Et j'écoutais ça en boucle, en boucle, en boucle, en essayant de l'imiter. Je n'y arrivais pas trop, mais...
Du côté du Guatemala, on écoutait ça aussi. J'ai Robo Stamante.
Oui, oui, beaucoup, beaucoup. Moi, ça m'a marqué. En plus, parce que c'est sorti, j'étais très petit quand c'est sorti. Je suis allé les voir. Et,
ah, vous l'avez vu sur scène
voilà. Non. J'ai vu le vidéo quand il est sorti. Ouais. C'était un petit court-métrage.
Ouais. Thriller, oui, c'est un petit moment.
Thriller, et on était hyper surpris. Et on était tous de Michael Jackson à l'époque aussi. Ouais, ça a marqué la planète.
Tous fans de Michael Jackson. Alors on poursuit avec un de vos plaisirs coupables, Malik Djoudi, parce qu'il en faut dans tout ADN musical qui se respecte. Alors celui-là, il a des grands cils, il maîtrise les chorés acrobatiques et les sirènes de l'autotune. C'est l'artiste solo qui a vendu le plus de disques au monde, plus qu'Elvis, plus que Michael Jackson. Alors elle fait ce qu'elle veut quand elle veut. Pay me what you want me. Don't act like you forgot. Bitch, but I am my money. Bitch, but I am my money. À qui appartient cette charmante voix?
C'est Rihanna.
C'est Rihanna. Qu'est-ce qui vous plaît? C'est le titre? C'est elle? Sa personnalité? Sa
voix? Le titre, c'est quoi, Marion?
Oh, le titre, je prends ma respiration. Bitch, better have my money.
Traduction?
Les salopes, pardon.
Oui, c'est ça.
C'est vous qui le dites,
bah ouais,
c'est pas moi.
Dites, hein.
Ferait mieux d'avoir mon argent?
Oui, ferait mieux d'avoir mon argent. Waouh. Et qu'est-ce qui me plaît? C'est son ricain, c'est comment ça se balade sur l'instru, c'est pareil, perfection, rythme, mélodie, un tout, et puis l'image qui va avec.
Ouais. Aujourd'hui, on a conscience quand même que clip et musique, c'est intimement lié. Mmh. Vous partagez d'ailleurs, il y a un duo avec Étienne Daho, mais vous partagez quelque chose d'autre avec lui, c'est Antoine Carlier.
Oui.
Signe la pochette et qui signe aussi les trois premières vidéos ouais. de Tempérament.
Oui, c'est quelqu'un que j'ai découvert plus tard et j'ai su qu'il travaillait pour Étienne Daho, qu'il travaillait aussi pour Savages, John & Jen, DXX aussi. C'est ma directrice artistique qui m'a proposé de travailler avec lui, j'ai dit tout de suite oui et après j'ai vu qu'il y avait ses affinités avec Étienne Daho. Et on a décidé de faire une trilogie de clips. Les trois premiers clips de ce nouvel album, c'est avec lui qu'on les a réalisés. Enfin, c'est lui qui les a réalisés. Et on verra pour la suite.
Et dans votre ADN musical, alors on trouve aussi les chansons de Gainsbourg, le reggae de Bob Marley, Supertramp, la pop d'Étienne Daho, bien sûr, Blonde Redhead, la BO de Mulholland Drive, James Blake. Alors, dans un ADN aussi éclectique, pointu, marqué par les propositions aventureuses, sincères, je me dis qu'il y a sans doute une place pour celle de Love Supreme. Alors, il faut déjà un certain culot pour prendre le nom de l'album culte de John Coltrane, mais ce duo n'en manque pas. Alors, vous oubliez le jazz modal, la musique de Love Supreme, elle nous emmène plutôt vers un climat musical qui s'est épanoui sur les quais de Bristol dans les années 80. Ça donne une musique chancelante, contemplative, définitivement nocturne. C'est porté par une voix qui a voyagé et qui a bien vécu. Lonely feelings. Lonely feelings. Lonely feelings. There's something in my soul. It's just a never-born mesmerizing. Search those hidden colors, only visible. Le projet s'appelle Love Supremes, le titre Lonely Feelings. Love Supremes, c'est Joseph Morris et Kenzo Rose. Ils ont été repérés il y a 2 ans sur le nom de Jib Mob. Ils poursuivent cette aventure sonore avec une soul minimaliste qui cultive la patience. Il y a un premier EP de 8 titres qui est paru la semaine dernière sur le label A6. Est-ce que vous repartez avec Malik Djoudi?
Oui, tout de suite.
Ah mais en plus vous l'avez, vous avez bien de la chance, généralement elle propose des choses et après elle va dire allez, il faut
trop
les
beau.
Télécharger etc.
Je ne connaissais pas, merci ouais. Marion.
Voix basse, hein, cette fois-ci. On a changé de tessiture. Allez, on parle cinéma tout de suite. Cinéma, d'ailleurs, c'était un des titres du premier album de votre côté, Malik Judy. Et c'est de l'actualité de Jairo Bustamante.
Le nouveau rendez-vous.
Quiero que reflexione en lo primero que le venga a la mente las palabras que le voy a decir. Amor.
Familia.
Dios.
Padre. El verbo. Te pedimos, Señor, para que hoy, Señor, renuncie.
¡Papi! Dios ama a los pecadores. Lo que no ama es el pecado.
Laurent Goumard, sur France Inter.
Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. C'est ce que dit le pasteur évangéliste au centre de votre deuxième film Tremblement, Jairo Bustamante. Vous êtes cinéaste d'origine guatémaltèque, inconnu encore il y a 4 ans. Et puis premier film, le titre c'était
Ishkanul.
Révélation, Ours d'argent à Berlin en 2015, primé dans 30 festivals, un prix aussi à Biarritz. Au Guatemala, vous êtes devenu un héros national?
Non, mais... particulièrement, je crois que les Guatémaltèques n'aiment pas trop le type de cinéma que je fais parce que, comme l'industrie commence à peine, ils voudraient que je fasse un cinéma. Ils m'ont dit, faites une Amélie Poulain à la Guatémaltèque. Mais en même temps, ils se sont fait de moi l'ambassadeur numéro un du pays.
Parce que je peux bien imaginer.
C'est particulier. Voilà, Dieu n'aime pas les péchés, mais il aime les pécheurs.
C'est exactement ça dans votre propre cinéma. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a un frémissement de cinéma au Guatemala? Plutôt des comédies, c'est plutôt quoi? Alors, qu'est-ce qu'on regarde?
Non, disons qu'aujourd'hui, il y a du cinéma guatémaltèque, il y a une vague de réalisateurs qui sont partis faire des études à l'étranger.
Comme vous.
Qui sont revenus et qui sont en train de faire des films. Mais on parle d'une industrie qui fait 4 films par an, ouais. des films qui sont autoproduits. Moi, j'ai créé il y a 2 ans la première salle de cinéma indépendante dans le pays parce qu'on n'avait pas accès aux salles. Moins de 9% de la population a accès aux salles. Dans ces salles-là, les films qui passent, c'est des gros blockbusters américains. Je ne suis pas contre, mais il n'y a que ça. Donc là, je suis plutôt contre. Tout est en train de naître.
Et vous êtes un activiste de ce cinéma donc au Guatemala. Alors, Tremblement, c'est l'histoire d'un scandale familial et religieux. Pablo a 40 ans, bel homme, sous tout rapport, marié, 2 enfants, milieu très bourgeois. Et il va voir sa vie complètement exploser parce qu'il est amoureux d'un homme, Francisco. Et ça va lui coûter cher. Ça va lui coûter cher socialement, familialement. Il devient un exclu, un paria, à moins qu'il ne consente à guérir, à suivre une cure, une thérapie de conversion prescrite par son église, par le pasteur. Et c'est l'église évangéliste. C'est aussi un portrait de l'église évangéliste et du pouvoir que cette église a dans ce pays. Et je rappelle quand même que c'est cette église qui a permis l'arrivée au pouvoir au Brésil de Bolsonaro.
Oui, c'est-à-dire il y a aussi les églises catholiques qui proposent ce type de conversion. Ce n'est pas que l'église évangélique. D'ailleurs, les deux églises parlent aujourd'hui de la trinité du mal qui est composée par la pilule, l'avortement et l'homosexualité. Donc on va jusqu'à parler de lobbies internationaux qui ne donnent pas de naissance, donc ils offrent des morts, et leur objectif principal serait de réduire le peuple de Dieu. Donc on est vraiment dans un obscurantisme très très archaïque. Mais je me suis intéressé à ce sujet parce qu'au Guatemala, il y a 3 insultes, que c'est les 3 pires insultes qui sont perpétués, respectés, presque aimés. Et moi, je trouve que c'est les insultes qui arrêtent un peu la société de progresser. Le premier, c'est indien. Ouais. Sachant qu'on vient d'un pays dont plus de 75% de la population est indienne. Et c'est le reflet.
Victime d'un génocide, on le rappelle.
Victime d'un génocide. Et donc, c'est vraiment on est là à démontrer comment on s'autodiscrimine, comment on ne s'accepte pas, comment on voudrait être autre chose que ce soit pas nous-mêmes.
Donc indien. Et ça d'ailleurs, c'était le sujet de votre premier film. C'était le portrait d'une jeune femme de 17 ans qui était d'origine maya. La deuxième insulte,
c'est homosexuel, dont on appelle les homosexuels hueco, qui veut dire trou. Et l'homosexualité, surtout l'homosexualité masculine au Guatemala, n'est pas... Elle est plutôt liée au machisme et à la misogynie qu'à l'homophobie. Disons que quelque part, on s'est dit que un homme homosexuel se rabaisse parce qu'il se féminise un peu. Mmh. Et donc, c'est ça qu'on ne comprend pas, pourquoi il voudrait être moi comme une femme. Non. Donc c'est vraiment un problème énorme. En plus, 52% de la population est féminine. Et c'est une pays très dure pour les femmes. Elles n'ont pas les mêmes opportunités. Et il y a beaucoup de cas de fémicide. Mais l'Église a réussi à faire des femmes les gardiennes protectrices de l'institution oppresseur. Et donc, c'est tellement machiavélique.
Ouais, c'est très paradoxal.
Que en fait. C'est digne d'études. Et voilà, donc c'est pour ça que je me suis intéressé à faire...
Et la troisième insulte, alors ?
La troisième insulte, c'est communiste. Et donc, ça n'a rien à voir avec l'idéologie politique, évidemment. Mais dès qu'on s'inquiète pour les droits sociaux de quelqu'un, ou pour les droits, tout simplement, de quelqu'un d'autre, et vous devenez communiste.
Comment vous êtes documenté sur ces cures, ces thérapies de conversion ? J'ai pu lire que vous étiez inscrit, mais qu'on vous a vite repéré.
Oui, tout d'abord, j'ai rencontré un Pablo qui, à la fin de ma recherche, j'ai suivi 22 Pablo, 22 hommes qui ont construit ce personnage. Et le premier m'intéressait parce que c'était un homosexuel homophobe. Et donc, j'étais très intrigué par sa façon de voir la vie.
Il vivait son homosexualité?
Il vivait son homosexualité cachée, oui. Ouais, et selon lui, il vivait pas vraiment son homosexualité. Il vivait une sorte d'homosexualité. Parce que les PD, c'était autre chose. Et après ça, j'ai commencé à rencontrer d'autres Pablo, qui étaient encore plus intéressants parce qu'ils s'étaient mariés et ils avaient une double vie. Et ils savaient depuis longtemps qu'ils étaient homosexuels. Et ils avaient été poussés un peu par leur famille et par leur église à prendre une femme et à se marier. Et ça, c'est pas mal vu. Donc, tu es homosexuel, va, ment à une femme, construis une vie, fais des gosses, ment à la société, et ça ira très bien parce que là, Dieu va t'aimer. Et donc, dans ce moment-là, pour moi, le film a pris tout l'intérêt sociétal.
Bien sûr, ouais.
Et j'ai voulu en faire un film.
Et donc, vous avez suivi
Et donc, après, je suis rentré dans une église pour suivre une cure.
Une église évangéliste ou catholique ?
Une église catholique.
D'accord.
La cure a commencé, c'est vraiment très particulier, la cure commençait, elle est divisée en trois étapes. La première étape est destinée à vous détruire psychologiquement, à qu'on comprenne vraiment qu'on est une abomination. La deuxième étape, c'est plutôt dans les sociales, pour qu'on comprenne tout ce qu'on va perdre et le mal qu'on fera aux autres.
Son métier, sa famille, ses enfants. Ouais.
Et surtout ce qu'eux, ils vont perdre à cause de vous. Et la troisième, ça va déjà dans le physique. C'est les humiliations physiques, c'est l'enfermement dans un centre, c'est des piqûres pour arrêter de bander temporairement. Ça va vraiment très loin. Et moi, j'étais dans la première partie, mais mon premier film est sorti, il a eu du succès dans le pays. Donc on s'est un peu en douté que j'étais pas là pour me soigner.
Mais pour vous documenter pour un prochain film arrivé.
Gentiment. Ils ont été très, très gentils, ils m'ont demandé de partir. Et donc malheureusement, je n'ai pas pu me soigner.
Juste une question par rapport donc au sujet manifestement très délicat, ce qui était aussi le cas du premier. Mais par rapport à ce sujet, est-ce que ça a été difficile de trouver des acteurs capables d'incarner ces personnages ? Au vu du thème de l'homosexualité, Jairo Bustamante.
Ça, c'est très particulier parce qu'au Guatemala, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a pas vraiment une industrie, il n'y a pas donc pas des écoles d'acteurs, il n'y a pas d'acteurs de cinéma. Il y a quelques-uns qui sont partis aussi, qui sont revenus après. Mais il y a beaucoup de gens qui veulent devenir acteurs. Et donc, il y avait beaucoup de gens aussi qui voulaient travailler avec moi parce que j'avais été le film le plus reconnu internationalement.
Tu parles.
Et j'avais reçu pas mal de comédiens dans le casting, ou d'aspirants à comédiens. Et 80% d'entre eux m'ont dit, tu sais, un film de moi, non. En rêvant, je veux bien être connu, je veux bien que tu fasses de moi une star. Donc, donne-moi un petit rôle, là, même juste là derrière et tout.
Mais je ne jouerai pas l'homosexuel.
Et je leur ai posé la question, je leur ai dit, mais vous savez qu'être un artiste, ça veut dire s'impliquer. On ne peut pas juste vouloir la
célébrité,
la célébrité et ne pas s'impliquer avec un sujet qui traite de libertés, des droits de l'homme. Et ça ne les touchait pas énormément.
Excusez-moi.
Malik Jeudi.
Vous êtes assez libre pour faire vos films. Aujourd'hui, vous n'avez pas de pression de votre gouvernement ou...
Non, pas. Je crois que le premier film, ils se sont même pas rendus compte que j'étais en train de le faire. Le deuxième, ils se sont pas posé la question parce qu'ils voulaient tellement que je fasse un deuxième. Donc, ils étaient contents. Mais du fait qu'il n'y a pas d'aide, qu'il n'y a pas de loi de cinéma, qu'il n'y a pas de fonds, qu'il n'y a rien, ils peuvent pas faire grand chose. Je sais pas s'ils vont interdire les films à la
sortie. Ils l'ont vu le film,
pas
déjà?
Pas encore.
Ah oui.
Non, pas encore.
Vous avez peur qu'ils puissent interdire le film? Ça serait possible?
Non, je ne pense pas que le gouvernement puisse la faire, parce que il y a quand même un mouvement intellectuel qui se mettra à l'encontre, je l'espère en tout cas. Mais les églises ont beaucoup de pouvoir. Les églises ont beaucoup de pouvoir, peut-être elles peuvent. On a créé aussi, après mon premier film, une fondation, que c'est la Fondation Ishkanul, qui a comme but de changer les mentalités ou amener de l'apprentissage par rapport au cinéma, à travers le cinéma, utiliser le cinéma comme outil plutôt d'apprentissage. Et grâce à ça, avec Ishkanul, on a utilisé les films pour lutter contre la loi qui était une loi qui permettait qu'on marie les petites filles de 12 ans, à partir de 12 ans. Et on a réussi à changer la loi. Bon, pas nous. On a utilisé le film, mais ça fait partie d'un mouvement. Et la loi a passé à 18 ans. Et là, maintenant, on essaye de faire des liens avec des églises évangéliques pour que les églises utilisent les films comme une plateforme de conversation. Et on a parlé beaucoup d'intégration avec eux. On a aussi parlé du pouvoir d'achat des homosexuels. Parce que les dîmes est très important pour cette église, pour ces églises.
La dîme, c'est oui, c'est-à-dire que pendant les églises, ils viennent chercher.
Il y a pas que la
dîme. Carte bleue d'ailleurs, hein.
Ouais,
carte bleue pendant l'église, ouais. Si.
Ouais, il y a pas que la dîme. Il y a des promesses de foi. Il y a même ces types de thérapies qui sont très chères. Il y a des thérapies pour tout. Mais c'est très normal parce que dans un pays où l'État ne s'occupe pas de ses citoyens, il y a ces institutions là qui prennent la responsabilité de certaines choses. Avec les règles, et parfois ces règles, ça va à l'encontre de nos droits.
Juste une dernière question personnelle pour vous, João Bustamante. Chaque fois, les deux films traitent de destins qui sont en dehors de la société. C'était le portrait de cette jeune femme de 17 ans qui avait un destin pas du tout raccord par rapport à ses origines. Aujourd'hui, c'est le portrait d'un milieu bourgeois et d'un homosexuel dans le milieu bourgeois. Qu'est-ce que ça raconte de vous, qui êtes par ailleurs métisse d'ailleurs? Est-ce qu'être cinéaste aujourd'hui et métisse au Guatemala, c'est être en dehors des normes de la société?
Oui, je pense que ça raconte de moi ce que ça raconte de tous les Guatémaltèques, c'est-à-dire on a des problèmes des majorités. Même si l'homosexualité est un problème des minorités, nos problèmes, c'est des problèmes du racisme généralisé. C'est-à-dire les Guatémaltèques qui est vraiment un spécialiste du panton de la peau. On est un peuple qui discrimine à son tour parce que la discrimination est tellement forte que discriminer celui qui est en bas, ou qui est plus foncé, ou qui est plus petit, ou qui a les cheveux raides, ou les cheveux bridés, tout ça, ça fait une cascade qui nous a malheureusement enterré pendant des années. Et on ne peut pas s'en sortir parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a d'autres problèmes beaucoup plus graves dont on n'a pas encore eu le temps de vraiment se focaliser, se nettoyer de cette mauvaise habitude.
Une société qui tremble, c'est dans Tremblement et ça sortira demain en salle. Merci Jairo Bustamante.
Merci à vous.
That you're gone. Under somebody new, well, that didn't take long. And where you gonna go? Not that I care. And who can you trust now that I'm not there? Never known such unhappiness. Now that you're gone, now that you're gone. And what will you
you're gone. Now that you're gone.
Alors ça, c'est vraiment un super groupe de super-héros du rock indé avec Jack White et Brandon Benson, The Raconteurs, sur France Inter. Ils seront en concert le 26 mai à l'Olympia à Paris. Le NRV, première partie, c'est fini. Merci Malik Djoudi, merci Jairo Bustamante. On se retrouve, nous, dans 15 minutes, après le journal, avec ça.
Je suis obligé d'être lucide, je n'ai pas réussi à me faire comprendre.
Emmanuel Macron, il y a des dossiers qui fâchent, on en parle. Le rendez-vous est pris, alors à tout de suite.